Alors bonsoir à toutes et à tous. On est particulièrement content ce soir d'accueillir l'autrice Rebecca Warrior pour son livre « Toutes les vies », publié chez Stock très récemment et qui fait 270 pages. Et je suis un peu ému aussi à titre personnel, donc je vais essayer de ne pas bégayer. Et merci à toutes et tous d'être là ce soir. C'est un roman qui est extrêmement prenant et avec lequel on traverse un ensemble d'émotions plus que puissante. Et donc moi, mon objectif, évidemment, dans l'heure qui va nous réunir tous ensemble, c'est évidemment qu'on traverse un peu le roman et qu'on en discute. Et puis ensuite, on aura un temps de questions avec vous, une dizaine de minutes, et vous pourrez rencontrer l'autrice à la fin pour poser toutes les questions que vous n'auriez pas osé poser devant cette foule nombreuse. Donc, « Toutes les vies », citation de Tchekhov, c'est un livre qu'on ne peut pas caractériser en un seul mot, parce que je pourrais dire que c'est un livre sur le deuil, mais c'est un livre aussi sur l'amour, et c'est surtout, je pense, un livre de résilience. Et ce qui va être intéressant dans le format qu'on a ici, où on a du temps ensemble, c'est un peu d'aller derrière le livre. Et ma première question, elle est toute simple. Je pense qu'un certain nombre de gens ici vous connaissent pour vos grands talents de parolière, que ce soit dans le groupe Sexy Sushi, dans le groupe Mansfieldia, ou dans, effectivement, le groupe que vous formez avec Vitalik. Et moi, ma question était toute simple, la première. Je considère, ça n'engage que moi, mais je pense que vous êtes d'accord, que vous avez un très grand talent dans vos chansons pour écrire des récits courts, des histoires très percutantes en très peu de mots, qui va aussi avec le style de musique que vous faites. Comment on passe à un format long? Comment vous êtes passé de l'un à l'autre?
Coucou, déjà.
Salut.
Salut. Je voudrais m'excuser d'avoir mes lunettes, mais j'ai vachement de mal avec la lumière, donc c'était pas pour faire rockstar. Voilà. Comment je suis passée au format long? J'ai pas décidé de passer au format long, ça a été un petit peu imposé à moi, parce que l'histoire que je voulais raconter, elle tenait pas dans une chanson, elle tenait pas non plus dans un album. Au bout de deux albums qui parlaient de la même chose, j'ai fait bon, il faut écrire un livre. Voilà. Donc c'était l'idée d'avoir plus de place, plus de. Ouais, par contre, j'ai gardé ma manière d'écrire assez synthétique, comme dans les lyrics, c'est-à-dire assez courte. Finalement, en fait, j'ai écrit de la même manière, comme une très très grande chanson. Et puis, quand j'écrivais, j'ai aussi beaucoup chanté dans ma tête, enfin, les rythmiques et les mélodies. Il fallait que ça sonne, donc je le chantonnais, soit je le lisais à voix haute. C'est un peu, j'ai gardé ça, je pouvais pas l'enlever. J'ai été trop habituée à écrire comme ça, donc. C'était format long, mais avec l'intention quand même de faire soit une grande chanson, soit une poésie, quoi.
Oui, et ça se voit dans le livre. Il y a beaucoup de retours à la ligne. Il y a pas de paragraphe extrêmement, voilà, qui assomme un peu le lecteur ou la lectrice. Et il y a même des moments où tu t'autorises des grandes listes de mots. Et ça, bon, question toute bête, l'éditeur, l'éditrice étaient d'accord sur ce genre de format qui vont un peu vers la prose poétique. Ça posait pas de problème. Tu avais carte blanche.
J'ai pas demandé. Vous étiez d'accord? Non, j'ai pas demandé. Ça m'a pas semblé être très contestataire ou très interdit. Ça me paraissait être cohérent dans ce que je racontais, parce que ça a beau être des listes, c'est des listes que la narratrice raconte à un moment où elle devient un peu zinzin. Donc ça matérialise aussi une forme de folie ou de se débarrasser des mots. Et puis de tous les avoir, vous savez, comme quand des fois on va se coucher et puis que tous les mots arrivent un par un et bam, 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 bam. Donc il y avait cette volonté d'écrire un peu aussi une forme de début de folie, quoi. Je pense que cette forme-là, ou des formes aussi, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de... Moi, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir ce qui était interdit ou pas. En fait, quand je l'ai écrit, je ne savais pas déjà s'il allait être publié. Et puis je trouvais ça bien de faire comme j'ai fait dans la chanson, quoi. Avec Sexy Sushi, je me suis pas non plus interdit grand chose, donc j'ai continué sur cette vibe.
Sur le processus d'écriture, il y a quand même des années de carrière dans la musique et ce passage à la littérature qui est un passage réussi. Sur l'objectif du livre, tu es dur avec toi-même puisque tu dis je n'écris pour personne, tu écris. Dites-vous, je ne tente pas de faire la poète ou la maligne, les mots, je m'en débarrasse. Et ma question, c'est, ce livre, c'est quand même plus que ça. Il y a d'autres moments où c'est plus direct, puisque c'est le livre aussi d'un deuil. Écrire un livre pour reconstituer toute cette histoire, ma rencontre et ma vie avec Pauline. Donc c'est l'objectif du livre, c'était ça, ou se débarrasser des mots?
Oui, il y avait quand même une volonté de se débarrasser des mots, de écrire, c'est, j'ai toujours écrire, c'est mentir déjà, mais c'est aussi se consoler. Donc quelque part, il y avait vraiment une volonté de d'écrire tout ça aussi pour le retransformer à ma sauce. Pour alors c'est pas, je parle d'autofiction parce que c'est inspiré de ma vie, mais il y a plein de moments en fait où j'ai pris la tangente aussi pour réécrire l'histoire, pour me la réapproprier, pour bah c'est ça, pour me faire du bien ou pour me consoler à un endroit. Donc il y avait cette ouais, cette volonté de vraiment un peu partir par les chemins de traverse, de se débarrasser de ce qu'il y avait à se débarrasser, de dire aussi des fois, de dire un peu l'indicible, et puis d'essayer de, en fait, écrire, c'est quand même, on ouvre les portes de la poésie, de la littérature, et c'est des endroits que je trouve très, quand on est dans le désespoir, quand on est dans des moments durs de la vie, c'est des endroits où il fait bon d'aller, quoi. Il y a eu beaucoup de récits sur la mort, sur le deuil, sur le sacré, sur qui sont des endroits où on peut se réfugier quand on va mal. Et du coup, ça a été un de mes premiers mouvements, de me réfugier dans les arts, dans la littérature, la poésie, et puis dans l'écriture.
Et ça, on le sent, on va y revenir sur, justement, c'est un livre qui est émaillé de beaucoup de références, mais on en parlera un petit peu après, parce que c'est amusant, et en même temps, un peu, c'est un défi. Là, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, et ce qui est intéressant, tu l'as défendu dans pas mal d'interviews, les gens arrivent en disant, bon, ben, c'est une autobiographie, puisque ça raconte aussi qu'est-ce que c'est que être veuve à 39 ans, etc. Et tout de suite, tu disais, non, c'est de l'autofiction, et je cite encore, une fois, tu dis... que tu cites Rousseau, qui rappelle, évidemment, je me permets un trait d'esprit, qui rappelle les confessions à tous ceux qui l'ont lu, et donc pas forcément des moments très, très, très faciles de lecture. Et tu cites Rousseau, qui lui-même dit « J'ai porté dans cet écrit la bonne foi, la véracité, la franchise, aussi loin, plus loin même, au moins je le crois, que ne fit aucun autre homme. » Donc là, on a un pacte, ce qu'on appelle un pacte de lecture, qui dit « Bon, je vais vous dire la vérité, je vais faire une autobiographie. » Et dans le même temps, tu dis... Non, c'est de l'autofiction. Et donc, comment tu as joué avec ça? C'est-à-dire, c'était d'office, il n'y avait pas de vérité atteignable, et donc on est de plein pied dans la fiction. Où tu mets la limite?
Déjà, j'ai adoré les confessions parce que Rousseau se permet de dire ça, et en même temps, il a raconté absolument pas du tout la vérité. Il y a beaucoup d'inepties dans ce qu'il raconte. Et il y a aussi des gros mensonges, parce que je crois qu'il a eu genre une vingtaine de femmes et d'enfants de chaque femme, et qu'il les a tous abandonnés. Et il y a à aucun moment dans les confessions, il est question de ça. Pour lui, c'est un homme clair, droit. Donc il y a une forme de, il dit je vais tout dire, mais évidemment non. Je dis écrire c'est mentir, parler c'est mentir. Enfin, à partir du moment où on réécrit l'histoire, on choisit un angle, on choisit d'évincer certaines choses, on choisit de transformer, ou alors même peut-être on les transforme sans s'en rendre compte. J'ai aussi en mémoire tous les journaux de Anaïs Nin, où en fait elle nous raconte une histoire, et puis on découvre. Moi, j'ai lu tous ces journaux en me disant que c'était la vérité, et puis je découvre aussi à sa mort que non, en fait, elle avait un mari et qu'elle en a jamais parlé dans tout ça. Bah, les masques. C'est hyper. On choisit de raconter un personnage, une histoire. Et d'ailleurs, le livre, je le signe du nom de Rebecca Warrior, c'est mon nom de scène. Et c'est aussi, c'est pour ça que je le signe de Rebecca Warrior et pas de mon nom de naissance, parce que j'estime que c'est l'histoire de Rebecca Warrior. Donc c'est un personnage aussi que j'ai créé, même si, évidemment, il y a de l'autobiographie, puisque je pars de base réelle de ce qui m'est arrivé. Et aussi, dans le livre, il y a beaucoup de personnages réels. Il y a Vitalik, il y a Vima Laponce, il y a Théo Mercier, il y a des gens que je fréquente, mais je leur fais vivre ou dire des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Et j'adore pouvoir entremêler ça, parce que, quelque part, c'est ma réalité à moi.
Je pense que c'est assez clair, et dans le livre, et dans les interviews. Et c'est vrai que, bon, à titre personnel, c'est satisfaisant... Des gens qui nous vendent de la vérité tout en faisant de la fiction, c'est quand même des moments où ce pacte de lecture qui lie l'écrivaine et les lecteurs ou les lectrices. Bon, voilà, là au moins, c'est clair. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Après, il y a cette question du style que tu as adopté. Tu en as déjà un peu parlé sur la question du type de processus d'écriture que tu avais par rapport aux chansons et à l'écriture. Moi, j'ai retrouvé un peu, enfin, tu m'envoies paître si tu n'es pas d'accord, mais il y avait un petit côté Vernon Subutex, sauf que c'était toi, Vernon Subutex, et avec beaucoup, malgré les thématiques lourdes et tristes dont on va parler après, mais il y a toujours beaucoup d'ironie, beaucoup de légèreté. Et est-ce que tu avais envie de ce côté-là, c'est-à-dire cette ironie qui permettait, dans les moments les plus noirs, hop, de croquer un personnage, une vie aussi.
Bah, Vernon, je pense que tu dis ça parce que il y a des goudous et du rock. Donc oui. Et je sais pas, j'aime bien que ce soit un petit peu rock'n'roll. Et puis le livre, il est un peu rock'n'roll aussi. La narratrice raconte des expériences ou des concerts ou des soirées qui sont quand même hautes en couleurs. Et je trouvais ça bien de faire intervenir et ça pour souffler quoi, pour avoir des moments d'apaisement, des moments aussi qui sont très deep hein, parce que la fête c'est pas toujours hyper joyeux, des fois on se réfugie aussi là-dedans. Et puis les moments d'ironie, je pense que moi-même en écrivant je me saoulais moi-même, c'est déprimant ce que t'écris, donc je pense que j'avais besoin par moment de faire du cynisme comme j'adore faire aussi dans mes paroles de chansons pour aussi me sortir la tête de là et puis me dire si tout ça arrive il faut pouvoir s'en sortir et il faut trouver des astuces et il faut trouver des moyens de s'il faut vivre il faut trouver un moyen voilà.
Ok, super. Et alors si j'ai dit j'ai essayé de donner quelques pistes sur ce que contenait le livre et effectivement avant d'être une histoire de deuil c'est une histoire d'amour. Alors ce qui m'est venu, tu le cites pas dans les multiples références dont on parlera après, mais c'est un peu une sorte d'écume des jours. Il y avait de Vian qui est quelqu'un qui aimait aussi bien faire la fête. C'est dur, tu t'as affronté des thèmes très durs à écrire, le deuil, la mort. Est-ce que c'est dur d'écrire une histoire d'amour? Est-ce que c'était compliqué de trouver les mots ou au contraire ça venait de soi?
Oui, c'est peut-être ce qui était le plus difficile à écrire parce que aussi c'était une partie où j'avais pas envie de trahir non plus la mémoire de Pauline. Donc je pense que c'était difficile d'essayer de la décrire d'une manière qui reste belle et cohérente et donc c'est la partie qui pour moi est la plus difficile à écrire, ouais. La partie finalement les parties plus difficiles sur le deuil, sur la mort, sur les multiples essais qu'on doit faire dans la vie pour vivre et pour trouver de la ressource ont été plus, c'est pas que c'était facile parce que le livre était pas facile à écrire, mais c'était des parties où je sentais plus que j'étais légitime, on va dire. Que sur d'écrire l'amour, c'était pas quelque chose que je m'étais dit. Même dans mes chansons, enfin, je parlais assez peu de ça. C'est pas un thème facile.
J'étais en train de refaire tout le répertoire des chansons dans l'ordre.
Pour en trouver une.
C'est un peu long. pour oublier, je
dors. Le sex appeal de la policière.
En vrai, c'est à ça que j'ai pensé.
Si tu m'entends.
C'est une super histoire d'amour.
Ouais.
Allez, désolé pour ça. Donc, pour le livre en soi, il est politique à plein d'égards, mais pas politique comme on l'entend dans la politique politicienne. Et je pense qu'un des premiers éléments très politiques, c'est que c'est un livre sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un aidant. Un aidant, c'est-à-dire auprès de ta compagne qui a eu un cancer, etc. C'était quand même de ta position et les difficultés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un thème, je pense, que vous avez croisé un peu partout. Mais, donc, parce que c'est un thème politique, comment on aide les aidants, comment on les décharge de tout ça, est-ce que c'est possible? Mais je me disais, en te lisant, il n'y a pas d'imaginaire autour de ça. Il n'y a pas d'imaginaire littéraire. Ça veut dire quoi, traverser tout ça? Et je te cite, tu le fais. Et ce qui est incroyable dans ce livre, c'est l'honnêteté avec... laquelle tu t'affrontes tes propres échecs et tes failles et la difficulté d'être aidant. Et tu le dis, tu l'écris un moment. J'avoue avoir pensé quelquefois que je voulais que ça s'arrête. Et je dis une phrase qui a dû libérer beaucoup en fait de lecteurs et de lectrices qui ont traversé les mêmes épreuves que toi. Alors est-ce que tu avais envie de ça? Est-ce que tu avais envie de que ce livre il soit aussi comme une aide pour les aidants?
Moi, quand je l'ai écrit, j'ai pas du tout pensé à ça. En fait, je n'avais pas réalisé, je crois, que j'étais déjà dans ma propre histoire passée de amante à aidante. Et ensuite, c'est vrai que je me suis sentie à bien des moments seule parce que je ne savais pas. C'est difficile d'aider quelqu'un qui est malade. Et il n'y a pas de. Je veux dire, on fait inévitablement de la merde puisqu'il n'y a pas de, méthode. C'est pas un sujet en plus qui est beaucoup mis sur la table. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, plutôt, je voulais parler des multiples erreurs qu'on pouvait faire. Je voulais parler de tout. En fait, quelque part, c'est comme ce livre de Brigitte Giraud, « Si j'avais pas fait ça, vivre vite », où elle parle de la mort de son mari et elle refait le livre en se disant, en fait, « Si j'étais pas allée au supermarché, il aurait pas pris sa moto. » Et donc, il y a quelque chose comme ça à dire, moi, si j'avais pas eu cette attitude, est-ce que en fait Pauline serait vivante? Si j'avais pas été si nulle à certains endroits, est-ce que je l'aurais plus soutenue? Est-ce que donc il y a beaucoup de ouais, je pense que quand moi je l'ai écrit, j'avais besoin de dire, ah, si j'avais pas fait ça, et c'est seulement à la sortie du livre que j'ai eu plein de mots de gens qui étaient dans la même situation ou qui avaient vécu cette situation d'aidant. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait peu d'ouvrages là-dessus et puis que tout le monde faisait des erreurs et qu'on était tous un peu à la loi du silence, tous à faire nos erreurs dans notre coin et que personne en parlait. Et je pense que ce serait... Enfin, moi, au moment de ce décès, en fait, j'ai vraiment lu tout ce qui se rattachait au deuil, aux étapes du deuil, à comment aller mieux, qu'est-ce qu'on fait pour survivre, qu'est-ce qu'on fait pour aider, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, je pense aux chimio, qu'est-ce qu'on doit manger avant, En fait, on sait, tout ça, j'ai essayé de tout lire, et en fait, il y a un peu... c'est assez difficile d'y retrouver son compte, voilà. Et il y a peu d'endroits où je me suis sentie soulagée, à part, je l'aurais dit, mais dans la poésie, quelque part, où c'est complètement métaphorique et où il n'y a pas d'aide concrète, mais je ne trouvais pas d'aide concrète. Voilà.
Merci pour tout ça. C'est vraiment, encore une fois, des choses qui, quand on a le livre en main, aident énormément, parce que c'est, voilà, il y a des choses à faire autour de cet imaginaire, comme tu le dis, qui n'est pas présent sur les aspects techniques, mais ni non plus, on n'a pas tellement de personnages ou de fictions qui nous ramènent à ça. Derrière, bah, évidemment, il y a le décès et le deuil. Et dans ces pages dont tu nous as déjà dit qu'il y a vraiment ce moment où, quand tu arrives dans quelque chose d'extrêmement tragique, tu mets de l'ironie, tu mets de l'humour noir. Donc, il y a étonnamment, il y a une sorte d'alchimie autour de tout ça et où tu montres bien, alors est-ce que c'est ce que tu as voulu faire, mais qu'il y a dans le deuil, il y a toujours en fait des étapes extrêmement mécaniques, extrêmement aliénantes, parce qu'elles sont dans l'ordre et qu'on est obligé de les subir. Donc ça, comment tu l'as appréhendé? Enfin, est-ce que tu l'as découpé? Comment t'as traversé ça aussi pour l'écrire?
C'est d'ailleurs un peu triste, puisque quand on se retrouve dans les étapes du deuil et qu'on lit des livres où on est dans les étapes du deuil, on dit, ah non, pas moi. Moi, c'est différent, c'est beaucoup plus triste, moi. Et on lit ces étapes et en fait on se reconnaît parfaitement. Enfin, je trouve qu'on a tous perdu des proches et c'est vraiment tout le temps le même schéma. Donc c'est assez difficile à assumer. Et y a même cette phase colère, en fait, on est en colère contre les étapes du deuil. Et je pense que j'avais envie, comme je te le disais, en fait, je sais pas si j'avais envie de détailler ça pour que ce soit public. J'avais envie de le réécrire pour me le réapproprier et pour pas me sentir pour me sentir un petit peu plus que ce soit quelque chose de personnel, un deuil plus qui soit le mien, quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me dire que j'allais trouver les solutions dans la poésie, des solutions dans la littérature, dans les arts, dans la mélodie, dans les mélodies, dans et beaucoup aussi dans la spiritualité. Donc j'ai essayé de chercher une voie qui soit la mienne, et en fouillant un peu partout, quoi, en fouillant dans tout ce que je pouvais trouver et en regardant tout ce qui était à notre disposition.
Parce que je rebondis, effectivement, voilà, le livre c'est tout ça, mais je trouve que c'est pas à moi de le résumer ou quoi, mais une des composantes fortes, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, c'est l'histoire d'une renaissance, c'est l'histoire d'une résilience, et avec un foisonnement. Alors, il y a plusieurs choses, il y a les lectures, on y viendra après, mais il y a aussi la spiritualité, le moment où tu te plonges dans toute forme de spiritualité. Alors ça, vous le lirez dans le livre, hein, il y a un voyage à travers plein de types de chamanisme, de méditation, qui sont très intéressants pour si vous les connaissez pas. Et voilà. Et donc la question est toute bête, c'est quelle place ça a eu pour toi? C'était vraiment le tout découvrir, tout tester. C'était important pour ce chemin de résilience.
Ouais, pour te dire, en fait, je crois qu'il faut trouver un sens à sa vie, et c'est pas du tout évident. Et parce que si on est trop déprimé, si on va trop mal, à ce moment-là, on se dit alors pourquoi pas se foutre en l'air directement. Et trouver du sens à sa vie, en fait, c'était ma recherche. Et c'était aussi, y avait un endroit de moi qui voulait explorer toutes les possibilités. Donc, effectivement, je crois profondément que le sens de la vie, c'est de trouver le bonheur pour soi. Et donc, quelle forme de bonheur durable je peux trouver dans quelle source. Donc, j'ai commencé à chercher dans plein d'endroits. Moi, la narratrice cherche encore plus que moi. Mais c'est vrai que c'est important. En plus, je trouve, aujourd'hui, en France, en 2025, quand on est plus ou moins anard ou de gauche comme moi, c'est pas évident de dire « Ah, je crois que la foi est peut-être un endroit où je peux trouver du réconfort. » Donc, c'était quelque chose aussi où il y avait peut-être peut-être j'ai hésité à chercher dans tous ces endroits. Donc, peut-être que ça m'a aidé de passer par plein de systèmes, c'est-à-dire, le chamanisme, les poisons... la sorcellerie, tout l'animisme, le bouddhisme. Donc, je pense que c'est important pour chacun d'ouvrir toutes les portes pour essayer de faire sa tambouille personnelle, sa tambouille de bonheur personnel. Et il n'y a pas de recette miracle qu'un tel ou un tel peuvent donner, quoi. Chacun doit faire sa propre tambouille. C'est l'idée de la vie.
Et d'ailleurs, dans cette quête de spiritualité, tu es aussi honnête sur le fait qu'être aidant, c'est dur, mais sur le fait que méditer par terre dans des positions pas possibles pendant des heures, c'est extrêmement dur.
C'est très, très chiant. Ben ouais. Mais c'est comme d'aller au sport et de se dire, bon, je vais... en fait, j'ai trop mal au genou, donc il faut que je fasse mes quadris, il faut que je muche mes quadris. Ben, c'est pareil, en fait. C'est extrêmement le bordel dans nos têtes et on fait absolument aucun effort pendant des années. De là, rien à foutre. On laisse s'entasser tout un tas de merde. Et puis, un jour, on dit, en fait, la méditation, c'est vraiment le sport de l'âme. Donc, moi, quand j'ai commencé à le faire, c'était vraiment pas joli, joli. Et je pense que c'est plus dur. Il vaut mieux commencer plus jeune, peut-être. Et ça, c'est chiant, mais c'est quand même les abdos, c'est chiant. Mais après, on est plus fort, on est certainement aussi un peu plus heureux, peut-être. Enfin, bon, en tout cas, ça marche pour certains. Je sais pas.
J'essayerai un jour.
Ça marche peut-être pas pour tous.
un des éléments qu'on a déjà un peu évoqué dans le livre et qui est ni plus ou moins surprenant, mais quand même, c'est qu'il est vraiment émaillé de très très nombreuses références littéraires. Alors, ça va de Tchekhov, donc le titre. Tatoué aussi, c'est dit page 135 sur ton poignet, toutes les vies. Ça va de Thomas Mann jusqu'à Marc Aurèle, jusqu'à tout un ensemble d'auteurs. Et là, on sent très vite, en fait, moi en tout cas, ça m'a marqué que c'est pas du tout du name dropping ou pour faire le malin, la maligne en soirée en disant qu'on a lu des trucs très compliqués. C'est vraiment, on sent des auteurs qui t'ont porté, qui t'ont accompagné, que tu maîtrises hein, vraiment. Et donc, comment ça s'est passé? Tu voulais leur rendre hommage, tu t'es dit, tiens, ils m'accompagnent sur le truc, je les cite à ce moment-là. Enfin, c'est ouais. Toutes ces références-là.
Le squelette du livre, en fait, il m'est apparu assez clairement. Je trouvais ça important qu'il y ait plusieurs niveaux de récits. Donc, il y a les carnets intimes qui racontent une forme de réalité, donc le quotidien à l'état pur, hein, quand on se fait mal ou quand on c'est les claques directes. La narratrice qui raconte avec beaucoup plus de recul, donc qui considère déjà que la personne qui écrit dans les carnets est un peu loin. Et puis les citations qui sont comme des accompagnants, c'est eux mes aidants, et qui sont là tout au long du livre pour accompagner aussi la narratrice et la personne des carnets. Donc je pense que j'ai pas cité Marc Aurèle parce que je trouvais ça sympa de citer Marc Aurèle. J'y ai trouvé mon compte dans ces vieilles choses. Ça m'a vraiment parlé en fait. Je me suis dit bon sang, dans d'une pipe en bois, hein, ça fait quand même un paquet de temps et il écrit des choses que je c'est identique à ce que je ressens. Donc c'était pas du flan quoi. Marc Aurèle c'est vraiment cool.
Alors, c'est le moment publicité. Il y a deux vrais punks, Montaigne et Marc Aurèle. Donc, voilà, mais ça, c'est avis perso. Mais bon, c'est pas parce qu'on est à Bordeaux, mais des vrais. Et voilà. Et effectivement, je suis assez d'accord. Alors, il y a un petit côté, encore une fois, politique, mais pas au sens de la politique politicienne. Je te cite, c'est que tu le dis et ça m'a fait beaucoup rire. Donc là, il y a cet appétit de lecture qui est incroyable. Hein. On sent, et tu viens de le confirmer, que ça a vraiment été une ressource pour toi. Et tu dis à la page 77, donc tu as cité Marc Aurèle, Hermann Hesse, Jean-Paul Sartre, André Gide, Thomas Mann. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Et tu dis encore un vieux philosophe cis blanc et mort auquel je m'identifie sans problème et c'est un problème. Alors, et du coup, ce qui est intéressant, c'est tu le dis, c'est tu t'identifies à ces hommes du passé, tous peut-être cis hétéro blanc. Enfin, bon, on n'a pas forcément les infos sur tout le monde pour André Gide, non. Et tu termines en disant « faute de grive, on mange des merles ». Alors, si vous ne comprenez pas l'expression, ça veut dire que faute, je te paraphrase, mais faute de femmes du passé qui auraient pu t'accompagner, tu te réfères à ces hommes-là. Est-ce que c'est parce qu'elles ont été invisibilisées ? Enfin, comment tu as pensé cette chose-là par rapport à voilà, un passé qui est doublement invisibilisé, des femmes invisibilisées à l'époque, puis par la société patriarcale. Donc, comment tu t'es mis à l'aise avec tous ces vieux mecs cis ?
Ouais. Alors déjà, Marc Aurèle, on a retrouvé des lettres qu'il écrivait à Fronton, qui sont quand même légèrement gays. Donc bon, Marc Aurèle, on peut peut-être le sauver. Comment j'en suis arrivée là ? Bah, j'en suis arrivée là parce que je suis née en 78. Donc moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de littérature queer, pas beaucoup de films, je n'avais pas grand-chose, ni fait par des femmes, ni fait par des queers. Donc j'étais quand même assoiffée de culture, et puis j'adorais les arts, donc j'ai bouffé des trucs, mais c'est ce que j'avais à me mettre sous la dent. Donc c'est vrai que ça peut paraître étrange de s'identifier à Jean-Paul Sartre, mon cher étant de biglouche, mais tu vois, c'est arrivé à mon insu, quoi. À force de lire ça, en fait, ça a réussi à changer mon cerveau. Ça m'a, je sais pas, j'ai été infusée par ces vieux là. Et puis en grandissant, puis maintenant, aujourd'hui, Dieu soit loué, il y a de plus en plus de littérature féministe et queer et. Et donc, ça change un peu la donne. Mais c'est vrai que jusqu'alors, en fait, jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près, j'avais pas vraiment le choix. Donc, s'il fallait lire, il fallait lire ça. Alors, donc, je faisais le tri aussi. Parce que quand on lit, par exemple, Rousseau, quand même, méga misogyne, ou Nietzsche, c'est compliqué, quoi. Donc, je retrouvais des fois avoir des bouquins avec des marqueurs, j'enlevais les passages tout dégoûtants. Et parce que j'étais un peu en colère, mais bon, quoi faire d'autre. Et puis après, maintenant, maintenant je me venge et puis je lis Laura Vasquez ou Marie Dariussecq. Mais voilà.
C'est chouette. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on a vraiment évalué l'impact de la lecture massive de comment dire, son nom m'échappe, de la comtesse de Ségur sur les sur. Je suis toujours pas au clair avec l'impact de la comtesse de Ségur sur nos sociétés, mais si vous voyez ce que je veux dire, vous verrez. Alors, tu viens de citer. Là, je reviens un peu sur la trajectoire. Dans le livre, tu cites donc Thomas Mann, Hermann Hesse. Ça n'aurait pas échappé à vos oreilles que ce sont des Allemands. Et donc, il y a un moment dont tu parles dans le livre où tu dis il fallait que je m'échappe, il fallait que j'apprenne une nouvelle langue, et ça a été l'allemand. Mmh. Alors, ce qui transparaît, évidemment, pour ceux qui t'écoutent, ils le savent, parce qu'il y a les albums de Compromat, parce qu'il y a tous les moments où tu chantes en allemand. Et moi, ma question, c'est, et en connaissance de cause, pourquoi une langue aussi dure? Et pourquoi l'Allemagne? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas l'espagnol?
J'avais appris l'espagnol au collège, donc je le connaissais un petit peu. Et il fallait vraiment quelque chose que je ne connaisse pas du tout. Donc, j'aurais pu prendre le japonais, que je ne connais pas non plus. Mais je me suis décidée pour l'allemand parce que... moi, je vais expliquer la base. Déjà, je voulais chanter dans une langue que je connaisse pas du tout et de repartir de zéro parce que je trouvais ça extrêmement difficile de chanter des choses qui me faisaient du mal dans ma langue maternelle. C'était trop intime, trop proche de moi, j'étais pas prête. Donc j'avais besoin de passer par un autre médium. Comme par exemple, on va pas ressentir la même chose avec des accords, le même accord à la guitare ou au piano. Je pense que dans les langues aussi, il y a beaucoup ça. Chanter en allemand, on ne va pas ressentir la même chose qu'en français ou en espagnol. Et puis, je me suis décidée pour l'allemand parce que je suis une grosse fan de EBM, donc Electronic Body Music, qui est un peu associée à la Cold Wave. C'est de la musique pour les corbeaux, les gothiques. je fais hyper rapido. Mais c'est un style de musique où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de groupes qui sont allemands, donc j'en ai écouté pas mal, dont DAF, qui est en haut de la pyramide de l'EBM. C'est aussi l'EBM, c'est aussi un moment, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, où en fait on est passé des instruments plutôt électrifiés, à, comme les guitares, les basses, etc., à d'instruments électroniques comme la boîte à rythme, et tout passait par des machines. Donc des synthés. Donc c'était vraiment le moment où en fait le punk rock est devenu l'EBM, quelque chose de plus synthétique. Donc moi cette période elle me touche parce que j'étais jeune dans les années 80, donc j'ai connu cette période, j'ai connu ce mouvement aussi en France avec les Beru. Et donc ça m'a paru naturel de choisir l'allemand pour ses références et aussi parce que ça me permettait d'aller vivre en Allemagne. Et d'aller dans les clubs, accessoirement, passer mes week-ends ou mes semaines. Donc tout était cohérent.
J'avais pas tout prévu, mais c'est la question d'après. Donc le DAF, pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est Deutsche Amerikanische Freundschaft. C'est un groupe des années 80 incroyable. Druck dich an mich, so fest wie du kannst. Et donc bon, ça, vous écouterez en rentrant.
Dich an mich.
Alors effectivement, j'allais y venir sur Berlin. Il y a le côté... Berlin qui... depuis et même avant la chute du mur, est redevenu la Mecque de la fête, mais de la fête électronique, fête dans les années 20, mais plus de la techno, l'électro, la minimale, tout ce que vous connaissez ou allez découvrir bientôt. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie du livre qui est autour de ces fêtes-là, les choses qu'on y fait, les choses qu'on y consomme. Et donc ça, est-ce que pour toi, ça a été aussi une envie d'aller donc vers les portes de la perception. Alors, petite chose de culture générale, les Doors, le groupe de Jim Morrison s'appelle les Doors en référence au livre d'Aldous Huxley, Les Portes de la Perception, où il raconte tous ses tests avec les produits divers et variés, hallucinogènes et autres. Et ça, c'est un peu présent dans le livre. Est-ce que c'était un axe fort du bouquin que tu voulais faire ou c'est lié au chamanisme? Enfin, comment tu as pensé le truc?
C'est un peu... ça faisait partie d'une recherche. Donc moi, je trouve que le livre, c'est un livre de quête spirituelle, de recherche. Et pour... quand on est chercheur, il faut chercher. Donc c'est vrai que j'ai eu envie que la narratrice raconte tout un tas d'endroits, de drogues, d'expériences qui sont parfois éclairantes, qui sont parfois aussi pas du tout éclairantes. Je pense que dans tous les types de drogues, il y a évidemment des choses qui peuvent être de l'ordre du chamanisme, avec par exemple les drogues comme le sapo ou l'ayahuasca, ou vous avez peut-être entendu parler de toutes ces drogues qui sont un peu hallucinogènes et donc qui amènent dans des mondes différents. Il y a aussi des drogues qui sont pas du tout qui amènent nulle part. Et j'en parle aussi dans le livre, parce que bon, la cocaïne, ça emmène clairement nulle part. Et je trouve que c'était intéressant d'essayer de parler de tout ce qui pouvait nous amener dans un ailleurs, parce que je pense aussi que la drogue, c'est mal, mais que des fois, dans une certaine forme d'imaginaire, il y a besoin de se plonger à fond dans des choses pour aussi essayer de voir comment peuvent communiquer le royaume des vivants et le royaume des morts. Comment, pour moi, certaines formes d'hallucinations sont dans cet endroit typiquement où on est entre les morts et les vivants. Donc, où peut-être les morts vont venir nous parler, ou peut-être les vivants peuvent aller voir ce qui se passe. Et j'adore ce film Orphée de Cocteau, parce que c'est exactement l'endroit dont il parle. Donc, dans Orphée de Cocteau, ils enfilent des gants MAPA et ils passent à travers les miroirs. Et là, ils vont dans le royaume des morts. Et il y a Maria Cazares qui est... c'est absolument somptueux et trop beau. Et Jean Marais, en fait, il arrive à aller dans ce royaume des morts aussi en utilisant une sibi et des mots de poésie, etc. Et je trouve que c'est... Justement, je parlais de recherche et de poésie, je trouve que c'est cet endroit qui m'intéresse le plus au monde. C'est que c'est cet endroit où, comment en fait nous vivants, on communique avec les esprits, et comment on communique avec nos ancêtres, comment on communique avec les autres royaumes. Et je pense que la poésie en fait partie, peut-être les gants MAPA, peut-être certaines formes de drogues hallucinogènes. En tout cas, je sens qu'il y a des clés et j'aime pouvoir... faire de la recherche là-dessus.
Merci pour la réponse. Et en t'écoutant, c'est vrai que dans le livre, je n'y avais pas pensé, mais il y a la même honnêteté par rapport au deuil, à la mort ou à la résilience qu'aux drogues, où effectivement, il y a aussi des moments où tu es cash pour dire que c'est pourri, les bad trips, etc. C'est pas du tout monolithique. Alors, une question qui est, tu as le droit de ne pas répondre, mais qui est plus par rapport à voilà, ça y est. Enfin, je veux dire, je pense que vous avez regardé un peu les actualités, etc. Tu as eu une presse top. Dans la quantité, bon, c'est une chose. Dans la qualité, tu as été un peu adoubé. Voilà, ça y est, le passage à la littérature, il est fait. Donc, moi, je me posais une question toute bête. Tu es habitué à défendre tes CD, tes vinyles, mais le live en soi, dans la musique, c'est une expérience à part entière. Et là, comment tu te sens par rapport à la promo de ce livre? Est-ce que tu es. Alors, tu n'es pas obligé de répondre devant Mola en disant non, je déteste ça, surtout les librairies, etc. Mais est-ce que tu t'es. Comment tu vis ce changement de statut, le fait de défendre le livre? Est-ce que tu es contente avec ça?
C'est vrai que c'est un monde que je ne connais pas du tout. Et en écrivant ce livre, je le faisais vraiment pour moi et je ne me suis pas dit que ça allait avoir cet impact-là. Donc, moi, je suis méga contente. Hein. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Après, c'est vrai que c'est un exercice auquel je pensais pas du tout me prêter dans ma vie, de faire des petits trucs comme ça, genre des petits canapés. Je sais pas, je suis plutôt habituée à... Ça me fait tout d'un coup, je me dis waouh, je suis une intello.
Tchekhov, Herman Hesse.
Ouais, mais bon, je l'ai pas vu venir. Et ça me plaît vachement, parce que tout d'un coup je dois défendre aussi un objet artistique que j'ai mis du temps à faire, énormément de temps, et qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est comme défendre un disque en fait. Si on fait la promo, c'est parce que on tient à tout ça. Et puis je découvre aussi un nouveau monde qui m'éclate, mine de rien, un monde de journée que je connaissais pas. Avec aussi de nouvelles manières de discuter avec les gens. Moi, j'ai eu vraiment l'habitude de faire des communions, un peu des messes païennes, où tout le monde est un peu... Comme on est un peu nu, on danse, on s'amuse, etc. Et là, c'est une autre forme, c'est cool. Mais on peut se... Quoi qu'on peut se...
Alors, tenir. Le public Mola.
Et aussi, j'ai découvert une sorte de passion pour les prix. Voilà, j'ai envie d'avoir le Goncourt maintenant.
Tout le monde a noté.
Parce que je trouve ça cool de... Bah, je trouve ça cool de gagner des trucs. Et je crois me rendre compte que c'est quand même un peu sclérosé, ce milieu. Voilà. J'ai... en mettant un pied par là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas... Je découvre tout un monde. Donc voilà, je le raconterai dans mon livre numéro 2. Le monde des prix. Le... Et ça va balancer sévère. Hein.
Tout le monde... tout le monde est hypé, là, c'est clair. Alors ça, c'était ma toute dernière question, mais je reviens sur cette histoire du livre et par rapport à la musique. Est-ce que... Tu l'as dit, en fait, la manière dont a été reçu ton livre par la presse, par les lecteurs, par les lectrices, a fait qu'en fait, ça t'a un peu... ça t'a transformé, éclairé. Ça t'a dit, en fait, voilà ce qu'on regarde dedans, notamment sur cette question des aidants. Est-ce que la musique, t'as la même impression? C'est-à-dire quand t'as ton public qui danse et qui fait la fête, ça transforme ta musique? Tu la vois d'une autre manière? Ou c'est pas la même...
Souvent, c'est vraiment le public. Là, c'est vraiment le public qui m'a dit « Ah, ça m'a aidé pour telle ou telle raison. » Et quand je fais des disques, souvent, j'ai pas conscience de ce qu'on a fait. Enfin, effectivement, je réalise souvent après quand on vient me dire ce que ça a fait. Enfin, le public, il vient me dire, moi, ça m'a fait ça et ça m'a fait du bien, ou ça m'a fait du mal, ou j'ai lu ça, j'ai compris ça dans ta musique. Et c'est parfois, je l'avoue, des choses que j'ai pas vues moi-même, parce que je pense que quand on fait de la musique, on fait des livres, on fait de l'art en gros, en général, des fois, en fait, on est un peu en pilote automatique et on sait pas, on n'est pas toujours responsable de nos actes. Donc après, une fois qu'on l'a fait, on réalise tout ce qu'on a fait, mais c'est pas, enfin, en tout cas chez moi, c'est pas immédiat.
Oui, bien sûr. Alors, tu as lancé des perches sur ce fameux livre qui s'appellera Le Monde des Prix. Alors, plus sérieusement, là, il y a une phase créative, il y a l'album de Compromat, etc. Est-ce que tu as, avec... Alors, on est encore dedans, mais est-ce que tu as des envies de futurs livres?
Ouais, c'est clair. Je crois que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Ça m'a vraiment plu d'écrire un livre. Après... donc j'ai très très envie d'en écrire un deuxième, mais je pense que c'est comme en musique où il faut avoir des choses à raconter. Donc on peut pas se dire tiens, j'ai décidé d'écrire un livre. En fait, c'est le livre qui décide de taper à ta porte. Donc faut voir, hein. si j'ai pas le Goncourt, hein. On va me faire une bonne raison, mais il me faudra une raison, ouais.
Bon, Rebecca Warrior, merci infiniment pour ce livre et pour cette discussion. Toutes les vies, on vous applaudit.
Merci à vous.